Les séminaires du Collège de France.
Bien, bonsoir. Donc là, on va aborder quelques aspects. On ne va pas faire toute la physique des trous noirs, on va se concentrer sur quelques aspects. Des aspects plutôt théoriques, un peu en complément avec les aspects observationnels qu'on vient de voir dans le cours de Françoise. Donc ouais, voici le plan de l'exposé. Dans un premier temps, je vais donner la définition d'un trou noir dans le cadre de la théorie relativiste de la gravitation qui est la relativité générale. Puis on examinera les principales propriétés des trous noirs, toujours dans le cadre de la relativité générale. J'ai prévu un passage sur la déconstruction de certains mythes, hein, des choses qu'on entend souvent à propos des trous noirs qui ne sont pas tout à fait exactes. J'essaierai d'expliquer pourquoi. Et puis ensuite, ce sera essentiellement, comme je disais, un exposé théorique, mais néanmoins, j'aborderai quand même deux aspects observationnels qui sont importants pour l'astrophysique contemporaine. Tout d'abord, ce qu'on sait des trous noirs quand on essaie de les observer par les ondes électromagnétiques, de les voir, et aussi si on essaie de les écouter, écouter entre guillemets, parce que c'est les voir en ondes gravitationnelles. Donc voilà, alors commençons par la définition d'un trou noir. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un trou noir ? Alors on peut donner une définition en quelques mots, sans mathématiques, disons. Un trou noir, c'est une région de l'espace-temps de laquelle rien ne peut sortir, on ne peut pas s'en échapper, y compris la lumière ne peut pas en sortir, d'où le mot noir, enfin trou noir. Et un autre élément de vocabulaire important aussi qu'on peut définir sans grande formule mathématique, c'est l'horizon des événements. Et l'horizon des événements, c'est tout simplement la frontière du trou noir. C'est-à-dire que si vous êtes en deçà de l'horizon, vous êtes dans le trou noir, vous ne pouvez pas sortir. Et si vous êtes au-delà, au-delà de l'horizon, vous êtes dans l'univers dit extérieur. Bon, ça c'est des définitions en quelques mots. Alors, ces définitions, il n'y a pas mention de relativité générale là-dedans, donc on peut se demander, est-ce que avec ces définitions-là, on ne pourrait pas avoir des trous noirs, par exemple dans les théories newtoniennes de la gravitation ? La réponse est plus ou moins oui, parce que en fait, pour la mécanique newtonienne, il y a le concept d'ailleurs que rappelait Françoise tout à l'heure, de vitesse de libération d'un corps massif, et si la vitesse de libération ou d'échappement est plus grande que la vitesse de la lumière, alors évidemment la lumière ne peut pas sortir du corps. Donc Françoise a rappelé cette petite formule tout à l'heure, hein, qu'on établit dans la mécanique newtonienne standard, en disant que l'énergie mécanique d'un corps se conserve et elle est composée d'une partie énergie cinétique où va apparaître la vitesse au carré, et puis une partie énergie potentielle. Et quand on regarde la vitesse qu'il faut acquérir à la surface du corps pour atteindre l'infini, dans le cas marginal, c'est-à-dire avec une vitesse nulle à l'infini, eh bien on obtient cette formule où M est la masse du corps, que je vais supposer à symétrie sphérique pour simplifier, R est le rayon du corps et G est la constante de Newton. Donc quand on fait l'application numérique dans cette formule, on voit que pour la Terre, la vitesse de libération, c'est 11 km par seconde, c'est facile à atteindre avec une fusée, on sait évidemment s'échapper de la Terre, on sait envoyer des sondes interstellaires. Sur le Soleil, on peut se poser la question, évidemment le Soleil, la vitesse de libération est plus petite que la vitesse de lumière, sinon la lumière du Soleil ne nous parviendrait pas. Et donc c'est 617 km par seconde. C'est beaucoup plus grand que la Terre, mais c'est néanmoins beaucoup plus petit que la vitesse de la lumière, qui est évidemment de 300 000 km par seconde. Donc le Soleil brille, on le voit ici. Alors, très tôt, en fait, dès le 18e siècle, des physiciens se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe si j'ai un corps dont la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière? Alors, si on met la formule, si on se pose cette question-là, si la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière, si je mets la formule que j'ai donnée tout à l'heure, que j'élève le tout au carré, on obtient cette inégalité-là. Et si je fais apparaître, je remplace la masse du corps, je l'exprime en fonction de la densité du corps, donc je fais apparaître ici le volume d'une boule, hein, donc je prends un corps, encore une fois, à symétrie sphérique, genre 4 tiers de pi r cube, c'est le volume de la boule, fois la densité. Eh bien, à ce moment-là, j'ai une inégalité que je peux transformer en inégalité sur le rayon de l'objet. C'est-à-dire que si je fixe la densité, ici, j'ai des constantes, hein, c'est la vitesse de la lumière, j'ai la constante de gravitation de Newton, et pi, évidemment. Si je fixe la densité, alors si le rayon de mon objet est plus grand que cette valeur-là, eh bien, la vitesse de libération sera plus grande que la vitesse de la lumière, et j'aurai un trou noir en termes modernes. Et donc, comme je disais, dès la fin du XVIIIe siècle, des gens se sont établi cette formule et se sont posé la question. Et le premier, c'est John Mitchell, en Angleterre. Et il a dit que s'il y avait dans la nature des corps dont la densité serait celle du Soleil, donc ils n'ont pas pris des choses extravagantes pour l'époque, ils ont pris la densité du Soleil, qu'on pouvait estimer à peu près à l'époque, et dont le diamètre serait 500 fois plus grand que le diamètre du Soleil. Donc on voit ici l'aspect borne inférieur, il faut que le diamètre soit plus grand qu'une certaine valeur. Eh bien, à ce moment-là, la lumière ne pourrait pas nous parvenir. Nous n'aurions aucune information par la vision. Voilà. Donc c'est un peu prémonitoire, cet article. Et de manière apparemment indépendante, 20 ans plus tard, en France, Pierre-Simon de Laplace a dit « Un astre lumineux de la même densité que la Terre ». Donc pareil, Laplace, il n'a pas pris des choses extravagantes. On ne parlait pas d'étoiles à neutrons de grande densité à l'époque. Il a pris une densité naturelle, la densité de la Terre, hein, et dont le diamètre serait 250 fois plus grand que le Soleil, ne permettrait, en vertu de son attraction, à aucun de ses rayons, sous-entendu rayons lumineux, de parvenir jusqu'à nous. Il est dès lors possible que les plus grands corps lumineux de l'univers puissent, par cette cause, être invisibles. Donc lumineux au sens émetteur de lumière, en fait, ils ne sont pas lumineux, on ne les voit pas, hein, ils sont invisibles. Évidemment, on ne parlait pas de trous noirs, on parlait de corps obscurs. Voilà, donc ça apparaît dès la fin du 19e siècle. Et puis, en fait, c'est tombé très vite dans l'oubli. C'est pour ça qu'on appelle ça la préhistoire des trous noirs, si on veut. C'est pas vraiment le début de l'histoire des trous noirs pour les physiciens. C'est tombé dans l'oubli. Laplace lui-même, il a écrit ça donc dans son livre « L'exposition du système du monde » en 1796. Mais en fait, c'était dans la première édition qu'il fait cette remarque. Et dans les éditions suivantes, il fait plus du tout cette remarque, il n'en parle plus. Et peut-être la raison, une raison physique en fait à ça, c'est que à la fin du XVIIIe siècle, ce qui prévalait, c'était la théorie de Newton de la lumière, qui était une théorie corpusculaire de la lumière. Donc, on imaginait la lumière comme étant composée de petits grains. On prononçait pas le mot photon à l'époque, c'est un concept plus moderne, mais des petits grains. Donc, on conçoit bien que des petits grains, ils peuvent être soumis à la gravitation en quelque sorte. Par contre, au tout début du 19e siècle, il y a la fameuse expérience des fans de Young qui a révélé la nature ondulatoire de la lumière. Donc vous savez que pendant tout le 19e siècle, on a considéré la lumière comme une onde. L'apogée, ça a été la théorie de Maxwell de l'électromagnétisme. Donc c'est un champ, c'est une onde. Et là, la question de savoir si une onde, elle est soumise à la gravitation, est-ce que ce concept de vitesse de libération qui s'applique très bien à une particule matérielle, est-ce qu'il est aussi valable pour une onde ? C'était pas du tout clair hein, dans le cadre physique de l'époque. Donc, je pense que c'est l'une des questions, l'une des raisons, la raison principale pour laquelle on n'a plus du tout parlé de corps invisibles ou de trous noirs pendant tout le 19e siècle. Quand bien même on en aurait parlé, il y avait quand même une limitation à ce concept newtonien de trou noir qui fait que ça ne correspond pas à ce qu'aujourd'hui on appelle un trou noir. Pourquoi ? Parce que dans la théorie de Newton de la gravitation, la vitesse de la lumière ne joue aucun rôle privilégié. On peut imaginer une superfusée qui irait plus vite que la lumière dans la théorie de Newton. Rien ne l'interdit. Donc même si la lumière, le corps serait noir, aucun ne le verrait pas, mais on pourrait avoir de l'information de ce corps, on pourrait aller se poser dessus avec un engin spatial suffisamment puissant et puis revenir. Et donc c'est pas du tout ce qu'on entend par trou noir aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez visiter l'intérieur d'un trou noir, c'est sûr, vous ne reviendrez pas. Donc ça correspond pas à ça. Et une autre remarque qu'on peut faire aussi par rapport à la théorie moderne, c'est que lorsqu'on a un corps dont la vitesse de libération est voisine du même ordre de grandeur que la vitesse de la lumière, alors on peut voir que si on évalue, par toujours des formules de gravitation newtonienne, l'énergie potentielle du champ gravitationnel, cette énergie potentielle, elle devient du même ordre de grandeur que l'énergie de masse du corps. Donc là, on sent bien aussi qu'on atteint une limite de la théorie newtonienne de la gravitation, qui est une théorie non relativiste, parce qu'on met en jeu une énergie qui est du même ordre de grandeur que l'énergie de masse, le fameux E égale mc carré de tout le corps. Donc on sent bien que là, il faudra une théorie relativiste de la gravitation. On atteint les limites de la théorie non relativiste. Et on sait aujourd'hui que on a cette théorie relativiste de la gravitation, enfin on en a une, ce qu'on considère comme la meilleure, elle a passé beaucoup de tests à cette heure-ci. Donc là, c'est la relativité générale, la fameuse relativité générale d'Einstein. On a aussi aujourd'hui des généralisations de cette théorie, mais en tout cas, elle tient toujours la route. Elle a 100 ans, elle a plus de 100 ans, puisqu'elle a été publiée en 1915. Elle repose sur cette équation que je vais commenter dans un instant. Et elle décrit, contrairement à la théorie Newton, qui était basée sur le concept de force, la force de gravitation, elle décrit la gravitation plutôt par le concept de courbure de l'espace-temps. Donc pour aborder ce concept, je vais d'abord dire ce que c'est que l'espace-temps relativiste. Donc là, d'un point de vue mathématique, on va rentrer un peu plus dans le détail de la mathématique de la chose. L'espace-temps, ça, on peut le voir comme un couple où le premier membre du couple, c'est une variété. Donc une variété différentielle, c'est ce qui en mathématiques généralise en fait la notion de surface, qui est un objet de dimension 2. Là, on le généralise à la dimension 4, parce que c'est la dimension d'espace-temps, et le temps et l'espace sont un peu mélangés sur cette surface. Et cette surface, donc on peut dessiner des vecteurs, on peut dessiner. Et on a un concept géométrique important sur la surface qui est un tenseur métrique. En fait, c'est un champ de forme bilinéaire, symétrique, non dégénéré, de signature moins, plus, 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 pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, on peut faire. En fait, champ de forme bilinéaire, ça veut dire que si on prend deux vecteurs, par exemple deux vecteurs déplacement élémentaire sur la surface, on peut former leur. Le produit de ces deux vecteurs comme un produit scalaire. Un produit scalaire euclidien, c'est un exemple de forme bilinéaire, un exemple de tenseur métrique. Sauf que le produit scalaire euclidien, il a une signature avec que des plus. Et ici, on a un moins dans la signature, ce qu'on appelle une signature lorentzienne. Et pour donner deux exemples simples d'espace-temps relativiste, le premier, c'est l'exemple, le prototype, c'est l'exemple, c'est l'espace-temps plat de Minkowski, l'espace-temps de la relativité restreinte, l'espace-temps où il n'y a pas de gravitation. Donc, si on utilise des coordonnées sphériques pour décrire cet espace-temps, t est la coordonnée de temps, r la coordonnée radiale et deux coordonnées angulaires, θ et φ, la métrique, le tenseur métrique ici, se met sous cette forme-là, et on peut calculer la courbure de cet espace-temps, la courbure est nulle. Donc, c'est ce qu'on appelle un espace plat. Et la courbure traduit en fait la gravitation dans l'espace. Et donc là, dans l'espace-temps de Minkowski, il n'y a pas de gravitation, c'est la relativité restreinte, ça décrit très bien l'électromagnétisme, mais ça ne décrit pas du tout la gravitation. Pour aller décrire la gravitation, il faut de la courbure non nulle, et un prototype, c'est l'espace-temps de Schwarzschild. Alors, il y a une différence avec Minkowski. La première différence, c'est sur le choix de la variété différentielle. Pour l'espace-temps de Minkowski, c'est la variété différentielle de dimension 4 la plus simple qui soit, c'est tout simplement R4, l'espace R4. Pour l'espace-temps de Schwarzschild, déjà, c'est un espace-temps dont la topologie est différente, c'est pas du tout le même espace, c'est R2. Le plan, okay, croit la sphère, le produit cartésien d'un plan et d'une sphère. Et puis la métrique, vous voyez, elle est un peu plus compliquée. Il y a un paramètre ici qui s'interprète comme la masse du corps. Et la courbure, surtout la courbure de cet espace-temps-là, est pas nulle. Et donc, on dit que cet espace-temps décrit un champ gravitationnel. Alors, aussi, une importante chose, il y a la courbure. Quand on a sur cette variété des petites fluctuations de courbure, que j'ai essayé de dessiner ici par ces petites rides sur la variété, sur l'espace court. Alors, chaque fois, je dessine ces espaces comme étant à deux dimensions, hein, parce qu'on ne peut pas dessiner ici sur le plan du tableau quatre dimensions, mais il faut imaginer que ce sont des espaces à quatre dimensions. Donc, ces petites rides, en fait, c'est ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles ne sont pas autre chose que des oscillations de l'espace-temps lui-même. Et là, vous avez des lignes d'univers, d'observateurs, et puis les cônes de lumière qui étaient dessinées ici, c'est les directions qu'empruntent les photons sur cette surface d'espace-temps. Alors, si on veut comparer la relativité générale à la gravitation newtonienne, si vous êtes plutôt familier avec la gravitation newtonienne, vous savez qu'elle est complètement régie, par une équation qu'on appelle l'équation de Poisson, qui est l'équation qui porte sur le potentiel gravitationnel newtonien phi. Donc, on a laplacien de phi égale 4 pi g rho, et rho est la densité de ma matière. Donc, on peut faire plusieurs commentaires sur cette équation. D'abord, c'est une équation scalaire. Phi, c'est un champ scalaire. C'est un potentiel. Après, en prenant le gradient, on a le champ gravitationnel, qui est un vecteur, mais c'est le gradient du champ scalaire. Donc, l'équation fondamentale est essentiellement scalaire. Elle est linéaire, hein, parce que l'opérateur de Laplace, ici, c'est un opérateur linéaire. Elle est elliptique, c'est même le prototype d'une équation elliptique, l'équation de Poisson. Hein. Donc ça veut dire qu'on a une propagation instantanée de la gravitation. C'est-à-dire que si vous changez un petit peu le ρ, la source de l'équation de Poisson, immédiatement, le champ gravitationnel est changé dans tout l'espace. Il n'y a pas d'effet de propagation retardée, c'est une propriété de l'opérateur de Poisson. Voilà. Et la seule source ici, c'est la densité de masse. Au contraire, dans la relativité générale, hormis donc l'SP, espace-temps, construction mathématique, si on regarde juste l'équation fondamentale, qui est l'équation d'Einstein, alors c'est une équation déjà qui est pas scalaire, qui fait pas intervenir un potentiel, mais qui fait intervenir des tenseurs, donc on peut les voir comme des formes bilinéires symétriques aussi. C'est des tenseurs qui sont formés à partir des dérivés du tenseur métrique. J'écris une formule ici un peu symbolique. On a des dérivés secondes du tenseur métrique, on a l'inverse du tenseur métrique, on a le gradient si vous voulez, du tenseur métrique au carré ici. C'est une composante de la courbure, ce tenseur ici, qu'on appelle le tenseur de Ricci. C'est une partie du tenseur de courbure. Donc ça décrit la courbure de l'espace-temps dans le nombre de gauche. Et dans le nombre de droite, vous avez une partie qui décrit le contenu en matière. Et là, pareil, il est décrit par un tenseur qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. qui comprend à la fois l'énergie, la masse énergie, si vous voulez, mais aussi la densité d'impulsion et les contraintes dans la matière. Donc c'est une équation qui est tensorielle, comme c'est symétrique, on est en dimension 4, donc il faut voir ça comme une matrice, si vous voulez, dans des composantes, ça serait une matrice 4 sur 4, ça ferait 16 composantes, mais comme c'est symétrique, en fait, il n'y a que 10 composantes indépendantes. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'équation, si on contraste avec l'équation de Poisson, elle est non linéaire, à cause de ces termes ici. Et puis, il y a des effets, c'est pas évident, ça saute pas aux yeux sur l'équation aussi, mais de propagation à vitesse finie, en fait, qui va être localement la vitesse de la lumière. Donc, on n'a pas cette propagation instantanée qu'on a dans l'équation de Poisson. Et là, la source, c'est plus général que la densité de masse, c'est tout ce qui est énergie, énergie-impulsion dans l'espace-temps, y compris, par exemple, le champ électromagnétique, par son énergie, il n'y a pas de masse dans le champ électromagnétique, mais par l'énergie du champ électromagnétique, il contribue à générer du champ gravitationnel via l'équation d'Einstein. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'à la limite des champs gravitationnels faibles, une de ces 10 composantes de l'équation d'Einstein va redonner l'équation de Poisson. Encore une fois, ce n'est pas évident sur cette équation-là, mais croyez-moi sur parole. Et les 9 autres équations vont se réduire à des trivialités 0 égale 0. Donc, en quelque sorte, la gravité newtonienne est un cas limite de champ faible de la gravité d'Einstein, qui est donc une théorie plus générale de la gravitation. Alors, voilà, ça c'est le cadre. Maintenant, comment on définit un trou noir dans ce cadre-là ? Alors, je vous donne ici la définition mathématique, mais je vais la commenter, d'un trou noir. Ça, c'est l'égalité mathématique qui définit le trou noir. Donc, M, c'est la variété d'espace-temps. Et on prend le complémentaire, c'est-à-dire on retire une partie à cette variété d'espace-temps. Et ce qu'on retire, c'est ce qu'on appelle le passé causal du futur lumière, Sky+. Ici, alors je vais expliquer un peu ce que c'est. C'est que pour décider si on est dans une région de trou noir ou pas, il faut regarder si les rayons lumineux qui voyagent dans l'espace-temps, ils peuvent atteindre... si on est à l'extérieur du trou noir, ils vont pouvoir atteindre l'infini, ils vont pouvoir aller aussi loin qu'on veut du trou noir. Et pour formaliser ça, on plonge la variété dans cet espace-temps dans une variété plus grande qui a un bord, qui va être l'infini, donc ce qu'on pourra atteindre. C'est un processus qui a été inventé par Roger Penrose et ça s'appelle la compactification de Penrose. Et c'est pour décrire tout l'espace-temps sur une feuille. Ce schéma-là, en fait, décrit l'effondrement gravitationnel d'une étoile. Et dans un diagramme d'espace-temps plus classique, ça ressemblerait plutôt à ça. Donc vous avez ici, encore une fois, une réduction dimensionnelle. Je ne décide que 2 dimensions et pas les 4. Donc je prends une dimension d'espace, le rayon, en quelque sorte. Ici, j'ai une étoile. Et là, en dimension horizontale, en ordonnée, je prends un temps. Temps coordonné. Et ça décrit le phénomène dont parlait François tout à l'heure, l'effondrement du cœur d'une étoile qui va donner par exemple une supernova éventuellement. Et donc ça c'est la surface de l'étoile qui diminue au cours du temps jusqu'à se rétrécir en un point, dans ce cas idéalisé ici. Et donc là vous avez les photons qui partent, là vous avez les cônes de lumière qui sont dessinés en petit. Donc là les photons ils sont éventuellement absorbés par l'étoile, mais dès qu'ils atteignent la surface ils peuvent voyager librement. Et vous voyez que ces photons-là, à partir d'un moment, ils ne s'échappent plus, ils ne vont plus vers l'infini, ils retombent vers le centre. Et donc là, on a ce qu'on appelle, ce qui est en grisé, la région de trou noir. Donc là, on ne voit pas tout l'espace-temps parce qu'on a tronqué, évidemment, ça va jusqu'à l'infini. Mais si on introduit au lieu de R une coordonnée, par exemple, prenant l'arc tangent de R, des choses comme ça, ces petites manipulations mathématiques, à ce moment-là, on a un diagramme comme ça, où là, on voit tout l'espace-temps. Et donc, on a l'infini où arrivent tous les photons qui sortent, qui s'appelle Sky+, ici. Et le passé causal, et là, sur ces diagrammes, non seulement on a tout l'espace-temps d'un seul coup d'œil, mais en plus, on respecte la structure causale dans le sens où toutes les trajectoires des photons seront toujours dessinées à 45 degrés. Alors que là, en général, quand on a d'autres coordonnées, vous voyez, c'est des trajectoires plus ou moins courbes du fait de la gravitation, ils ne voyagent pas en ligne droite dans ces coordonnées-là. Dans les coordonnées ici des diagrammes de Carter-Penrose, en fait, tous les photons sont en ligne droite, donc on voit bien ce qui se passe. Et donc, si on regarde le passé causal, en fait, c'est le passé ici de cette région-là, on voit qu'il y a un petit bout qui est sur la variété d'espace-temps qui n'appartient pas à ce passé, et c'est ce qu'on appelle la région de trou noir. Et l'horizon d'événement, c'est la frontière qui apparaît ici par cette ligne à 45 degrés, parce qu'en fait, c'est une surface du genre lumière, mais en fait, sur le diagramme d'espace-temps classique, c'était plutôt quelque chose comme ça, l'horizon des événements. Voilà. Ça, c'est une vue de la même chose, mais à trois dimensions. Donc, on a deux dimensions d'espace, cette fois-ci une dimension de temps. Et donc, on voit qu'à partir d'un moment, les photons ne sortent plus. Et au centre, il apparaît une singularité, je vais commenter tout à l'heure. Et ça, c'est caractérisé par un théorème, fameux théorème qui a valu d'ailleurs prix Nobel de physique à Penrose en 2020. C'est qu'au-delà d'un certain stade de l'effondrement, quand l'effondrement atteint un certain stade qu'on caractérise techniquement, parce qu'on appelle une surface piégée, alors forcément, il va y avoir une singularité qui se forme au centre de l'objet. Voilà. Alors, donc, ça, c'est, je vous ai donné la définition moderne d'un trou noir. Maintenant, on va examiner les propriétés de ces objets, toujours d'un point de vue théorique, avant de passer aux observations. Donc, la première propriété, la première chose auquel on peut s'intéresser, c'est ce qui définit vraiment le trou noir, c'est cet horizon, cette surface. Alors, c'est une surface immatérielle, c'est pas du tout comme la surface d'une étoile, c'est une surface, disons, mathématique, en quelque sorte. C'est tout à fait l'analogue d'un cône de lumière. Dans l'espace-temps, quand on parle des cônes de lumière, donc, c'est, par exemple, si je suis ici, j'émets un faisceau de lumière, donc, encore une fois, j'ai deux dimensions d'espace, une de temps, eh bien, si j'émets dans toutes les directions, ça va former un cône, en fait, qui est un cône tridimensionnel, qui apparaît bidimensionnel ici. Là, c'est le cas de l'espace plat de Minkowski. Les rayons lumineux voyagent en ligne droite. Et c'est la même chose pour l'horizon des événements. Ça se forme dans un point, on a vu dans l'effondrement gravitationnel. C'est un espèce de cône de lumière, c'est-à-dire qu'il y a des photons qui sont tangents à ce cône de lumière, c'est les photons en noir ici. Donc, c'est ce qu'on appelle une hypersurface, parce que c'est de dimension 3 dans l'espace-temps qui est de dimension 4. Donc, on a une dimension de moins, c'est ce qu'on appelle une hypersurface. C'est un objet qui est tridimensionnel, mais qui est de même nature qu'un cône de lumière. Notamment, c'est pas matériel. C'est-à-dire que vous pouvez le traverser, il se passera rien, vous n'allez pas buter dessus, vous n'allez pas rebondir. C'est un objet, comme un cône de lumière, vous pouvez le traverser. Chose comme ça. Et simplement, la différence avec le cas du cône de lumière de Minkowski, c'est que le cône de lumière de Minkowski s'étend sans fin. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un photon ici émis à l'intérieur du cône de lumière, vous êtes prisonnier en quelque sorte du cône de lumière parce que vous n'allez jamais en sortir. Mais ce n'est pas grave, vous n'en sortez pas, vous êtes toujours à l'intérieur. Mais comme le cône s'étend, en fait, ça veut dire que vous pouvez voyager aussi loin que vous voulez du point de départ. Ce n'est pas, c'est pas une restriction très grande d'être prisonnier d'un cône de lumière. Alors que d'être prisonnier de l'horizon des événements d'un trou noir, eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas aller très loin, vous ne pourrez jamais explorer des régions lointaines de l'espace-temps. Voilà. Alors, ça, c'est l'aspect frontière du trou noir, l'horizon. Maintenant, qu'en est-il de la singularité centrale? Donc, c'est une singularité de courbure. C'est un endroit où le tenseur de courbure, donc qui décrit la courbure de l'espace-temps, diverge, c'est-à-dire il tend vers l'infini. Alors, physiquement, l'interprétation, j'ai pas eu le temps de détailler, mais du tenseur de courbure, on interprète comme c'est ce qui donne en fait les forces de marée, c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle différentielle, par exemple, entre vos pieds et votre tête. Vous allez sentir une force de gravité, pour te parler en termes newtoniens, une force de gravitation quand vous approchez du centre d'un trou noir, une force de gravitation, par exemple, plus grande sur les pieds que sur la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle une force de marée. C'est la même chose qui produit les marées océaniques sur la Terre, dû à l'attraction différentielle de la Lune et du Soleil. Ces forces de marée, elles divergent, elles se mettent à tendre vers l'infini. Donc, ça va disloquer, notamment quand on approche de la singularité, ça va disloquer toute forme organisée de matière. Alors, évidemment, dans toute théorie physique, quand on a un infini, on ne pense pas que dans la nature, il y ait des infinis comme ça. En général, quand on a un infini dans une théorie physique, ça marque une limite de domaine d'applicabilité de la théorie. Et donc, on pense que cet infini qui apparaît dans la relativité générale d'Einstein, c'est en fait une limite de cette relativité générale. Et pour bien décrire ce qui se passe d'un point de vue physique, il faudrait aller au-delà de la relativité générale, qui était elle-même une extension de la théorie de Newton. Et il faudrait donc une extension de la relativité générale, et notamment une extension quantique de la relativité générale. La relativité générale est une théorie classique de la gravitation. Et pour aller voir ce qui se passe au niveau de la singularité, il y a des effets quantiques qui interviendraient au niveau du champ gravitationnel. Et là, il y a deux pistes explorées actuellement, essentiellement. Il y a la théorie des cordes et l'autre piste, c'est la gravité quantique à boucle. C'est des pistes qui ne sont pas complètement abouties, qui sont même loin d'être abouties. Donc, en tout cas, elles ne décrivent pas aujourd'hui exactement ce qui se passe au niveau de la singularité. D'un point de vue purement astrophysique, ce n'est pas très grave, en quelque sorte, parce que la singularité, comme on le voit ici, elle est sous l'horizon, donc elle est inaccessible à l'observation. Donc, d'un point de vue astronome, disons, on se moque un peu de ce qui se passe sous la singularité, au niveau de la singularité. Voilà. Enfin, pour continuer sur la physique des trous noirs, les principales propriétés, il y a un des plus beaux résultats de la relativité générale qui est le théorème d'unicité, qui a été élaboré d'abord, il y avait des pistes dans l'école russe autour de Zeldovich, puis il a été formalisé en symétrie sphérique par Israël, et puis après étendu au cas axisymétrique et aux trous noirs généraux par Carter, Hawking et Robinson dans les années 70. Ce théorème, il dit qu'en relativité générale et en dimension 4, un trou noir stationnaire, il est écrit par seulement deux nombres, qui sont sa masse et son moment cinétique, parce qu'en fait, la solution de l'équation d'Einstein qui décrit un trou noir, dans le cas de la relativité générale en dimension 4, et dans le cas où le trou noir est stationnaire, est en équilibre, eh bien, il n'y en a qu'une. C'est la solution de Kerr, qui a été trouvée par le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr en 1963. Cette solution, elle généralise au cas de la rotation la solution de Schwarzschild, c'est-à-dire lorsque le moment cinétique est zéro, on retrouve une solution historique que j'ai montré tout à l'heure, la solution de Schwarzschild. On pourrait ajouter aussi un autre paramètre qui serait la charge électrique du trou noir, mais d'un point de vue astrophysique, c'est pas très relevant, c'est pas très intéressant. On pense qu'il n'y a pas vraiment de trou noir chargé dans l'univers. Donc c'est plutôt ces deux nombres, la masse et le moment cinétique. C'est cette solution de Kerr. Et c'est absolument remarquable ce théorème si vous faites le pendant avec les étoiles ou les planètes. Pour décrire une planète, vous n'allez pas décrire une planète qui a juste deux nombres, sa masse et son moment cinétique. Pour décrire une planète, il faut décrire les montagnes, les nuages, les rivières, les petits oiseaux, que sais-je. Enfin, je veux dire, il faut un nombre infini de degrés de liberté. Là, on a juste deux degrés de liberté. On n'a même pas des degrés de liberté fonctionnels, on n'a que deux nombres. Et cette solution, donc c'est ce qui a fait dire, d'ailleurs, on appelle ça absence de chevelure, un trou noir est un objet extrêmement lisse, extrêmement régulier. Il n'a pas de cheveux. Pour décrire des cheveux, il faudrait beaucoup plus que deux nombres. Et cette solution, je vous la montre ici, c'est la métrique de Kerr. Les deux nombres sont en rouge ici, M, la masse, et A, qui est lié au moment cinétique. En fait, c'est le moment cinétique réduit. Françoise en a parlé tout à l'heure. Qui est plus petit que 1. En fait, il faudrait mettre un M carré si on veut vraiment le rendre sans dimension dans cette formule. Il est entre 0 et 1. 0, c'est la solution de Schwarzschild, trou noir sans rotation. Et 1, c'est quand le trou noir est en rotation maximale. La variété d'espace-temps, c'est une variété plus compliquée que R4, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce produit scalaire ce produit cartésien du plan et de la sphère, et puis on retire la partie où la métrique est singulière, c'est un anneau en fait dans cette métrique-là, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, bon, elle est un petit peu compliquée, mais pas terriblement compliquée, hein, voilà, tout dépend de ces deux paramètres. Une différence aussi avec ce peut-être à quoi vous êtes habitué dans les coordonnées sphériques, c'est que là, R peut prendre des valeurs négatives dans cette solution, c'est-à-dire que R égale 0 n'est pas une singularité de coordonnées, on peut prolonger R négatif. Et d'un point de vue visuel, ça ressemble à ça. Ici, vous avez justement, comme R peut être négatif, on a pris comme coordonnée ici radiale l'exponentielle de R. Donc quand on est au centre, ici, on a R égale moins l'infini. R égale 0 est une sphère, n'est pas un point, c'est la sphère en orange ici. Et là, vous avez l'horizon des événements qui, dans ces coordonnées-là, est une sphère, en fait, mais bon, ça vient des coordonnées. Et surtout, vous avez à l'extérieur une région qu'on appelle l'ergorégion, dont la limite s'appelle l'ergosphère. Et dans cette région, il se passe c'est la région dans laquelle la gravitation et l'aspect rotation du trou noir est très important. C'est l'effet Lenz-Tiering dont parlait aussi Françoise tout à l'heure. Là, vous êtes obligé, le trou noir en quelque sorte entraîne l'espace-temps dans sa rotation, vous êtes obligé de tourner dans le trou noir. C'est-à-dire que si vous voyagez dans cette région, vous pouvez toujours en ressortir parce que vous êtes à l'extérieur de l'horizon, mais vous êtes obligé de tourner avec le trou noir. Bon, il y a d'autres régions intéressantes, mais qui sont sous l'horizon des événements que je n'ai pas le temps de décrire ici, je vais passer dessus. Alors, ces deux paramètres qui apparaissent, j'ai dit que c'était la masse et le moment cinétique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que cette solution de Kerr, c'est une solution du vide de l'équation d'Einstein, donc a priori, il n'y a pas de matière, donc qu'est-ce que ça veut dire cette masse? Donc, en aucun cas, la masse d'un trou noir, c'est une mesure de la quantité de matière. En théorie newtonienne de la gravitation, quand on parle de la masse, on imagine l'intégrale volumique de la densité, par exemple, on imagine, ça résume un peu le contenu en matière de l'objet. En gravitation, on ne relativise pas du tout, il faut voir la masse comme étant vraiment la masse gravitationnelle, c'est-à-dire c'est la masse qui donne le champ gravitationnel à l'extérieur de l'objet. Si on s'éloigne du trou noir, on peut la mesurer, cette masse, tout simplement par le mouvement orbital d'un corps d'épreuve, d'un satellite. Et si on va très loin, même les lois de la relativité générale, comme je disais tout à l'heure, redonnent la gravitation newtonienne. Donc on peut appliquer, par exemple, la troisième loi de Kepler, elle est tout à fait valable lorsqu'on est loin de l'objet. La troisième loi de Kepler vous dit que si vous avez une orbite sphérique, une orbite circulaire, pardon, eh bien, le cube du rayon orbital est proportionnel au carré de la période et le coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est la masse de l'objet. Hein. Donc, c'est cet aspect-là de la masse, c'est ça qui va donner la masse du trou noir. Et quand on met des chiffres là-dedans, eh bien, on retombe sur ces rayons tout petits, ces masses, pardon. Ce rayon-là, G sur MC carré, ça fait seulement 1 km pour une masse d'une masse solaire. Donc ça, c'est la masse. Le moment cinétique, encore une fois, pareil, ce n'est pas une mesure de la quantité de matière qui tourne dans le trou noir, parce que dans cette solution de Kerr, il n'y a pas de matière, c'est une solution du vide. Mais on peut le mesurer par aussi un effet sur les gyroscopes. Donc là, c'est un effet qui n'est pas newtonien, ce n'est pas comme la troisième loi de Kepler. C'est si vous êtes en orbite autour d'un trou noir, vous avez un gyroscope dans votre capsule spatiale, eh bien ce gyroscope va précesser, en fait, et le taux de précession va être proportionnel au moment cinétique, au spin du trou noir, par cette formule-là. Et ça décroît très vite en 1 sur R cube au fur et à mesure qu'on s'éloigne du trou noir. Voilà. Après, une autre question qu'on peut se poser, donc on a parlé de la masse du moment cinétique, on peut aussi se poser la question du rayon du trou noir. Souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bien défini comme concept. En tout cas, ce n'est certainement pas la distance entre la singularité et la surface du trou noir, par exemple, des choses comme ça. Ces distances, elles peuvent, suivant les coordonnées que vous utilisez, elles peuvent très vite être infinies. En fait, une bonne définition qui serait à la limite mesurable du rayon d'un trou noir, ça serait en termes de l'air, parce que si vous êtes resté à l'extérieur de l'horizon, vous pouvez essayer de vous en approcher, vous pouvez mesurer par exemple soit la circonférence de l'horizon avec une chaîne d'arpenteur, ou vous pouvez mesurer plus facilement peut-être l'air de l'horizon vu de l'extérieur à une section de temps constant, cet horizon apparaît comme une sphère. Eh bien, cette sphère, elle a une certaine aire qui n'est pas nul. Et puis, vous pouvez dire, l'air, dans les formules usuelles, pour une sphère, l'air, c'est 4 pi R2. Si j'inverse cette formule, ça me donne un certain rayon qu'on va qualifier de aréolaire, c'est-à-dire qui dérive de l'air. Et c'est ça la bonne définition du rayon d'un trou noir. Et pour un trou noir sphérique, ça va donner cette formule-là, qu'on appelle aussi rayon de Schwarzschild, 2 gm sur C carré, qui vaut 3 km pour une masse solaire. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin sur la physique des trous noirs, il y a un processus qui est très intéressant, je ne vais peut-être pas super détailler, c'est le processus de Penrose qui est lié à cette ergorégion, qu'on voyait ici en gris. Donc si on regarde, ça c'était une coupe méridionale du trou noir, donc l'axe de rotation ici est ici. Mais si maintenant je regarde ce qui se passe vu d'en haut, j'ai un observateur ici, par exemple si je regarde par le pôle nord, là, et je regarde le plan équatorial, et donc à ce moment-là, j'ai une vue plutôt comme ça, donc ça c'est l'aspect trou noir, et ça c'est en gris, toujours c'est l'ergorégion. Et si j'ai une particule qui arrive ici, qui se scinde en deux, qui se désintègre par exemple, ou si c'est une particule macroscopique, ça veut dire que c'est un vaisseau spatial qui largue une partie de sa cargaison dans le trou noir, mais s'il fait bien attention, comme on est dans l'ergorégion, on peut encore s'échapper, hein, on n'est pas sous l'horizon, donc le vaisseau spatial repart, ou la particule repart ici, on a une deuxième particule. Et si on fait le bilan d'énergie de ça en disant que ici on mesure l'énergie à l'infini de cette particule-là et on retranche l'énergie d'entrée à l'infini de cette particule-là, eh bien on peut tout à fait s'arranger pour que ce bilan d'énergie soit positif. Bon, je ne vais pas détailler le calcul, il est ici. Ça fait appel au tenseur métrique, au produit scalaire qui donne en fait l'énergie en relativité générale quand on prend la quadrivitesse d'un observateur et puis qu'on prend le vecteur quadri-impulsion. On peut tout à fait s'arranger dans l'ergorégion parce que c'est une région particulière où le vecteur qui génère les translations temporelles va être de jarre-espace. C'est ça la particularité de cette région. On peut s'arranger pour que ce produit scalaire-là soit positif, c'est-à-dire que le gain d'énergie soit positif. Autrement dit, il y a de l'énergie qui est prélevée sur l'énergie de rotation du trou noir, ce qui fait que ça peut être une source d'énergie, ce processus de Penrose. On pense qu'il est à l'œuvre dans les jets, dont parlait aussi Françoise tout à l'heure, les jets de galaxies, comme ici le jet de M87, via le mécanisme, par exemple, de Blount-Fanz-Nayek. Donc là, on a un jet avec une vitesse relativiste, on a de la matière, énormément de masse dans ce jet, c'est vraiment macroscopique, s'étend sur des dizaines de milliers d'années-lumière. Et on a un jet qui voyage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, on pense que c'est ce phénomène de Penrose qui est à l'origine du jet. De manière plus générale, le trou noir peut être vu non pas comme un objet sombre dans l'univers, mais comme au contraire le moteur au cœur des sources les plus lumineuses de l'univers, que sont les quasars, les binaires X. Parce qu'en fait, l'accrétion de matière sur un trou noir la matière est chauffée dans ce processus et ça rayonne, ça émet énormément d'énergie. Et comme le rappelait Françoise tout à l'heure aussi, je crois qu'on en a parlé dans son exposé, on peut aller jusqu'à, pour un trou noir qui ne tourne pas, jusqu'à 8%, je crois, de l'énergie de masse de la matière accrétée. Mais si on a un trou noir en rotation rapide, pour le Kerr extrême, on peut aller jusqu'à 42% d'énergie de masse. Et c'est beaucoup plus, cette libération d'énergie du MC carré, c'est beaucoup plus grand que les réactions thermonucléaires. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, dans toutes les sources de haute énergie, on fait appel à un trou noir pour expliquer le mécanisme central. Donc c'est un peu l'aspect paradoxal du trou noir. Rien n'en sort, mais en fait, au voisinage, on peut avoir une débauche d'énergie dans l'univers. Voilà. Alors maintenant, donc ça c'était la présentation des propriétés théoriques, des principales propriétés théoriques. Et là, je voudrais déconstruire certains mythes. Le premier mythe que j'aimerais bien déconstruire, c'est que les trous noirs sont des objets extrêmement denses. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent aussi. Quand on dit, demande à quelqu'un, c'est quoi un trou noir ? Il va dire, c'est un objet ultra dense, tellement dense que la lumière n'en sort pas, des choses comme ça. Et comme je le rappelais, en fait, les trous noirs stationnaires, les trous noirs de Kerr notamment, d'après le théorème d'absence de chevelure, ça décrit tous les trous noirs de l'univers, c'est une solution du vide. C'est-à-dire qu'on met le tenseur énergie-impulsion égal à zéro dans l'équation d'Einstein, donc on a le Ricci égal zéro. Donc le vide, c'est vraiment vide, c'est pas dense du tout. Alors on pourrait dire, ok, ouais, mais vous jouez sur les mots, on peut peut-être définir une densité moyenne. Vous avez parlé du rayon aérolaire. Si j'ai un rayon, je peux définir un volume, naïvement par 4 tiers de pi r cube, et je définis la densité comme ça, comme étant la masse divisée par ce volume-là, où je prends le rayon aérolaire. Et là, je vais obtenir une densité sûrement énorme. Eh bien, pas tellement, en fait, parce que si je fais l'application numérique pour deux trous noirs bien connus, le trou noir au cœur de notre galaxie, Sagittarius A étoile, on obtient une densité qui est beaucoup plus petite que la densité d'une naine blanche. Et pire encore, si je fais l'application numérique pour un trou noir plus massif, le trou noir au cœur de M87, que je montrais sur l'image tout à l'heure, eh bien on obtient une densité qui est bien plus petite que la densité de l'eau, cette densité moyenne. Donc vous voyez que ce n'est pas extrêmement dense, un trou noir. Ce qui compte dans la définition d'un trou noir, on voyait même sur la formule newtonienne qui fait appel à la vitesse de libération, le facteur qui intervient, c'est ce rapport m sur r. Vous vous rappelez, cette vitesse de libération, c'est racine carrée de 2gm sur r. Et ça, c'est ce qu'on appelle en physique la compacité de l'objet. Donc pour avoir un trou noir, il faut avoir un objet de grande compacité. Alors que la densité, c'est un autre concept. La densité, c'est la masse sur le volume. Et le volume, c'est le cube du rayon. Donc c'est ce rapport-là, m sur r cube. Et vous voyez que ce sont deux choses différentes. On peut avoir l'un petit et l'autre grand. Par exemple, si on prend un proton, ça va être énorme, m sur r cube. On va avoir densité nucléaire, 10 puissance 17 kg par mètre cube, alors que ce rapport-là va être tout petit. Voilà. Donc, retenez bien que les trous noirs, comme les étoiles neutrons, sont des objets compacts, pas forcément des objets denses. Et la preuve, d'ailleurs, que ça peut être fait de vide, un trou noir, c'est qu'en théorie, ça c'est une expérience académique qu'on sait faire aujourd'hui sur des ordinateurs, on fait des simulations numériques, prenez un paquet d'ondes gravitationnelles, donc vous avez un espace vide de toute matière. Simplement, cet espace, ce n'est pas l'espace de Minkowski, c'est un espace où il y a déjà des ondes gravitationnelles. Il y a des choses qui oscillent dans cet espace, mais c'est l'espace lui-même qui oscille. Si vous choisissez bien les conditions initiales, vous allez avoir ce paquet d'ondes gravitationnelles elles vont se diriger vers une région centrale et les effets non linéaires de l'équation d'Einstein vont prendre le dessus et vous allez former un horizon des événements, donc un horizon va apparaître et donc une région de trou noir va apparaître et à la fin, vous allez former un trou noir de Kerr en rotation alors qu'il n'y avait pas du tout de matière. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de densité, de choses très denses pour former un trou noir. Bon, c'est une expérience académique, ok, mais c'est pour comprendre les choses. Le deuxième mythe qu'on peut déconstruire, c'est qu'on rencontre aussi, ah ouais, si la lumière ne sort pas, c'est à cause de la courbure de l'espace-temps. Au niveau de l'horizon, elle est tellement grande que ça empêche les photons de traverser. C'est la courbure de l'espace-temps. Ça, c'est aussi un mythe, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, la courbure de l'espace-temps au niveau de l'horizon, c'est inversement proportionnel au carré de la masse du trou noir. Et pour un trou noir supermassif, c'est-à-dire qu'il y a une grande masse, eh bien, cette courbure, elle peut être arbitrairement petite, en fait. Et on peut même, pour des trous noirs non stationnaires, avoir des régions où il y a des régions de trous noirs où la courbure est exactement zéro. Et ça, je vais l'illustrer par une expérience académique, encore une fois, une solution académique des équations d'Einstein. Mais ça permet de comprendre des choses. C'est la solution de Vaidya, un mathématicien indien qui a trouvé cette solution dans les années 50. Elle est décrite ici. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais physiquement, ce que ça représente, c'est l'effondrement d'une coquille de rayonnement. Donc, vous imaginez, vous avez un univers vide. Sauf qu'il n'y a pas complètement vide, il y a une coquille de rayonnement, de radiation électromagnétique, si vous voulez, qui vous arrive de l'infini, qui est sphérique et qui va s'effondrer sur elle-même. Donc, c'est des photons qui voyagent vers le centre, en quelque sorte. Donc, dans ce diagramme d'espace-temps, ici, où il y a une dimension de temps et un rayon ici, c'est la région en jaune. Ici, vous imaginez des photons qui convergent vers le centre. Bon, c'est purement académique, hein, ce truc. Eh bien, dans cette région-là, à l'intérieur, on peut voir, c'est la solution des équations d'Einstein, vous dit qu'à l'intérieur, vous avez une portion de l'espace-temps de Minkowski. Ici, la courbure est exactement zéro. Vous êtes dans l'espace-temps de Minkowski. Et à l'extérieur, vous êtes dans l'espace-temps de Schwarzschild. C'est-à-dire que là, vous ressentez un trou noir de masse, d'une certaine masse, M. Eh bien, quand vous êtes ici, l'horizon des événements, en fait, dans ce diagramme d'espace-temps, il apparaît là. Donc là, dans cette région-là, c'est le vide. Non seulement c'est le vide, mais c'est plat. C'est Minkowski. C'est-à-dire, toute expérience de physique que vous allez faire, ça vous donnera le même résultat que dans Minkowski. Et pourtant, si vous êtes ici, vous êtes déjà à l'intérieur d'un trou noir. Donc ça montre qu'on ne peut pas localiser par une expérience de physique l'horizon des événements d'un trou noir. Je disais tout à l'heure, un peu en introduction, que l'horizon des événements est une surface immatérielle qu'on ne va pas buter dedans. Non seulement on ne va pas buter dedans, mais quand on le traverse, aucune expérience que vous pouvez faire d'électromagnétisme, de physique nucléaire, tout ce que vous voulez faire comme expérience, aucune expérience ne pourra vous dire « ça y est, tu viens de franchir l'horizon du trou noir ». C'est complètement impossible. Alors, le troisième mythe qu'on peut déconstruire, je m'arrêterai là pour la déconstruction, c'est un trou noir est une singularité de l'espace-temps. C'est aussi quelque chose aussi dans les conférences grand public, des fois quand on demande à l'auditoire « qu'est-ce qu'un trou noir ?» Une des réponses qui arrive souvent, c'est « oh, c'est une singularité dans l'espace-temps ». Alors, si vous revenez à la définition du trou noir que j'ai donnée, le trou noir, on le définit plutôt par un horizon, c'est-à-dire comme une région dont on ne peut pas sortir. On ne dit pas a priori qu'il y a une singularité dedans. Hein. Ça ne fait pas partie de la définition du trou noir. On peut dire, OK, mais les trous noirs que vous nous avez montrés, Schwarzschild et Kerr, là, bah, il y a clairement une singularité. Dans Kerr, je n'ai pas détaillé, elle est en anneaux. Bon, il y a une singularité, oui, c'est tout à fait vrai. En plus, on vous avait parlé du théorème de Penrose, et le théorème de Penrose, il dit dans un effondrement gravitationnel, si on dépasse un certain stade, une singularité doit se former. Oui, mais si on y regarde de plus près, ce théorème de Penrose, il est basé sur certaines hypothèses, qui ne sont pas forcément vérifiées, c'est des hypothèses bon, un peu techniques, certaines. Et donc, comme tout théorème, évidemment, il est valable que si ces hypothèses sont satisfaites. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais vous montrer un contre-exemple. Donc, pour illustrer qu'un trou noir, ce n'est pas forcément une singularité, ce contre-exemple, c'est le trou noir de Bardeen, donc trouvé il y a très longtemps par Bardeen. Vous voyez la métrique, c'est un trou noir à symétrie sphérique, ça ressemble à la métrique de Schwarzschild, c'est un peu plus compliqué que la métrique de Schwarzschild, c'est donné par ça. Une différence avec la métrique de Schwarzschild, c'est une solution de l'équation d'Einstein avec source. Schwarzschild, c'est dans le vide, c'est-à-dire que Schwarzschild, on aurait zéro ici. Ici, on a un tenseur énergie-impulsion qui est un tenseur énergie-impulsion d'un champ électromagnétique, mais d'un champ électromagnétique un peu bizarre. C'est un champ électromagnétique, bon, il est donné par cette formule mathématique ici, mais qui décrit en fait un monopôle magnétique. Donc déjà, ça c'est un peu bizarre, parce qu'on ne pense pas qu'il y ait de monopôle magnétique dans la nature, mais surtout, la théorie de l'électromagnétisme sur laquelle est basé ce monopôle magnétique, ce n'est pas la théorie de Maxwell, c'est une théorie, ce qu'on appelle d'électrodynamique non linéaire, c'est-à-dire que le Lagrangien de cette théorie, il est formé à partir du tenseur champ électromagnétique, le F mu nu, là, qui décrit complètement champ électromagnétique dans n'importe quelle théorie, eh bien, il y a ce scalaire. Et dans la théorie de Maxwell, je vous rappelle, si vous regardez le principe variationnel, une formulation variationnelle électrodynamique de Maxwell, vous utilisez cette densité de Lagrangien, c'est ce scalaire simplement, c'est linéaire dans ce scalaire. Ici, vous avez une fonction beaucoup plus compliquée du champ scalaire, donc c'est une autre théorie que la théorie de Maxwell. Eh bien non, après tout, pourquoi pas, on est dans le domaine théorique, il y a des expériences de pensée, et dans ce domaine-là, il y a cette solution qui décrit un trou noir, et en fait, quand on regarde ce trou noir, il est régulier, la courbure est toujours finie, partout, même à l'intérieur du trou noir. C'est une solution donc visée. Le tenseur énergie-impulsion, il est assez sympathique dans le sens où il obéit à une condition de positivité d'énergie. C'est pas un truc d'énergie négative, c'est satisfait des conditions d'énergie faibles. Il y a des surfaces piégées. Néanmoins, une des hypothèses du théorème de Penrose, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails, qui est l'existence d'une surface de Cauchy dans l'espace-temps, n'est pas vérifiée. Donc, OK, ça viole pas le théorème de Penrose pour ça. Et sans ça, on échappe. Il y a une version améliorée du théorème de Penrose qui fait pas appel aux surfaces de Cauchy, mais une condition d'énergie plus forte. Et là, effectivement, celle-ci est violée. Donc, la condition dite d'énergie forte, mais qui a pas un substrat physique très fort, celle-ci elle s'appelle faible, mais le substrat physique est fort, en fait. Elle n'est pas violée, celle-ci est violée. Voilà. Donc voilà. Bon. Voilà. Alors, dans le temps qui reste, on va finir avec les observations. Donc ça, c'était un peu les aspects théoriques que je voulais mettre en avant sur les trous noirs. Pour les observations, je vais dire quelques mots des observations en ondes électromagnétiques. Alors, je ne vais pas parler des binaires X, des choses, des quasars, des choses comme ça. J'ai parlé vraiment de la vision proche des trous noirs, c'est-à-dire essayer de voir l'horizon des événements, si on veut, enfin, de ce qui se passe. Alors, évidemment, pour voir ça, il faut avoir de la matière en orbite autour du trou noir et il faut calculer, enfin, d'un point de vue théorique, disons, il faut calculer les géodésiques, les trajectoires des photons qui vont fournir les images. Et comme on a des trajectoires compliquées, potentiellement compliquées, on a des images multiples. Donc ça avait été calculé par Jean-Pierre Lumier à la fin des années 70, toute première image, qui c'est connu. Ça a été nettement amélioré par Jean-Alain Marc dans les années 90, où il a fait un film, le premier film du vol vers un trou noir, où on voit les images, ces images multiples. Donc là, on a un disque d'accrétion de la matière qui tourne. Donc on a essentiellement ici, sur cette image, un effet Doppler. La matière qui vient vers l'observateur, elle apparaît plus lumineuse que la matière qui s'éloigne de l'observateur, parce qu'on a des vitesses de rotation relativistes dans ce genre de disque d'accrétion. Là, bon, on s'approche. Voilà, on voit une image secondaire, une image tertiaire. Et puis là, c'est la région vraiment noire. Aucun photon ne sort de cette région. Je ne vais pas détailler. Ce qu'on fait actuellement dans notre groupe, on calcule ce genre d'image pour différents modèles de matière et surtout différents modèles de sources centrales. Donc, quelque chose de naturel, c'est de faire le calcul dans le trou noir de Kerr, parce que la relativité générale vous dit que si c'est un trou noir, ça doit forcément être un trou noir de Kerr. C'est le théorème d'unicité, le théorème d'absence de chevelure. Mais on fait aussi dans ce genre de calcul pour des objets plus exotiques que les trous noirs pour permettre de tester. Si un jour on a des images, on espère avoir dans un futur proche des images fines comme ça, avec notamment l'image secondaire, pour tester si on n'a pas autre chose qu'un trou noir. Par exemple, une alternative théoriquement viable aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une étoile bosonique, c'est un champ scalaire massif de type boson de Higgs. On sait que le boson de Higgs existe, on l'a découvert, donc ce n'est pas complètement débile de considérer des étoiles bosoniques aujourd'hui. Donc, mais c'est des objets très, très, très exotiques dans le sens où on n'a pas de processus astrophysique de formation. Ce seraient peut-être des objets qui seraient formés dans l'univers primordial par condensation. On aurait un condensat de Bose-Einstein, un certain champ qui serait autogravitant. Et ça peut faire un champ de gravitation très fort, mais néanmoins, il n'y a pas d'horizon des événements dans ce genre d'objet. Et on a des structures dues à ces effets de mirage gravitationnel qu'on a calculés. Donc si un jour, on observe des choses comme ça, on pourra dire « Ah, tiens, c'est peut-être pas un trou noir, c'est peut-être une étoile bosonique », des choses comme ça. Voilà, c'est pour préparer les tests futurs. Ça, c'était une parenthèse sur les trous noirs au cinéma. Vous avez peut-être vu le film Interstellar de Christopher Nolan, où les images sont assez réalistes, pour une part parce qu'elles ont été calculées en calculant les géodésiques dans les espaces-temps de Kerr, de la relativité générale. Néanmoins, il y a un choix du réalisateur qui était de gommer l'effet Doppler, parce qu'il trouvait que ça brisait la symétrie de l'image. L'image est parfaitement symétrique. Ça, c'est complètement faux, parce que, évidemment, le trou noir, la matière, elle tourne dans l'isse d'accrétion. Donc, encore une fois, ce qu'il faudrait voir, c'est cette image-là, qui est un côté beaucoup plus brillant que l'autre. Voilà, mais c'est un choix du réalisateur, c'est une parenthèse. Alors, est-ce qu'on peut voir ça vraiment, autrement que dans les films de Christopher Nolan? C'est ça la question. Eh bien, en fait, si on regarde ce diamètre-là, on peut faire l'application numérique. Il est tout petit pour les trous noirs connus qui sont listés ici, notamment le trou noir au centre de notre galaxie, parce que c'est linéaire avec la masse du trou noir et c'est inversement proportionnel à la distance du trou noir. Et donc, c'est 53 microsecondes d'arc. C'est extrêmement petit. On pense que la résolution si vous savez que la résolution du télescope spatial Hubble, par exemple, c'est le dixième de seconde d'arc, donc c'est 100 000 fois plus grand. Hubble pourrait pas le voir, mais si on construit un télescope de taille planétaire, en fait, c'est pas possible, mais on va faire un interféromètre, en combinant les données comme ça, on a un pouvoir de résolution absolument énorme. Et ça, ce qui a permis la toute première image par cet instrument qui combine les différents radiotélescopes à la surface de la Terre. J'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Et les données ont été acquises en 2017 et l'image a été révélée en 2019 pour la galaxie M-Messier 87, celle dont on voyait le G tout à l'heure. Donc le cœur de cette galaxie, on voit effectivement une zone sombre et on voit cet effet Doppler, donc vraisemblablement l'axe de rotation comme ça, il y a une partie qui s'approche de nous, une partie qui s'éloigne de nous. Mais l'image est encore très floue, c'est une image reconstituée, c'est pas une vraie image, on pourrait discuter beaucoup de cette image d'ailleurs. En fait, ce qu'on observe, c'est la transformée de Fourier de cette image, et dans ce plan de Fourier, il y a beaucoup de trous, donc c'est une reconstitution probabiliste de cette image, c'est pas du tout une image directe comme on a avec un télescope ordinaire. Mais bon, c'est la toute première image. Une autre série d'observations qu'on fait, c'est au VLT, c'est observer les orbites des étoiles au voisinage des trous noirs, du trou noir central. Et grâce à notamment cette étoile qui s'appelle S2, qui fait un tour en 16 ans, on a une précision absolument remarquable sur la masse de l'objet central. On a pu mesurer sa masse, donc 4,1 millions de masses solaires. On n'a pas encore mesuré le spin. On espère, grâce toujours au mouvement de S2, avoir le spin par l'effet lens steering d'ici quelques années. Il faut accumuler plusieurs orbites pour ça. Donc ça sera quelque chose de très intéressant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est activement observé par l'équipe de l'instrument Gravity. Et récemment, ça va faire 2 ans maintenant, l'équipe de l'Event Horizon Telescope, donc cet interféromètre planétaire, a révélé l'image, toujours sur ces données de 2017, une image encore une fois très floue du trou noir central, une image reconstruite avec des choses qu'on comprend pas très bien, pourquoi il y a 3 îlots surlumineux ici, c'est peut-être un artefact de la reconstruction de l'image. On est à la limite de ce qu'on peut faire, mais ce qu'il faut dire, c'est que les choses vont s'améliorer. C'est les toutes premières images de ce type, donc dans le futur, on espère avoir des images où on va pouvoir faire des tests de la relativité générale, par exemple. Là, on peut faire à peu près aucun test, très peu de tests. Voilà. Et le deuxième canal d'observation proche des trous noirs, de ce qui se passe vraiment en visage des trous noirs, c'est les ondes gravitationnelle. J'ai mis écouter plutôt que voir parce que le signal s'apparente plutôt à un signal acoustique. C'est pas du tout un signal acoustique, c'est une perturbation de l'espace-temps, mais c'est un signal de forme acoustique pour un détecteur. Et il y a des points communs d'ailleurs. Le point commun entre les trous noirs et les ondes gravitationnelles, c'est que ce sont tous les deux des solutions de l'équation d'Einstein du vide. Je remets ici l'équation d'Einstein avec le tenseur de Ricci, donc les dérivées secondes du tenseur de courbe, du tenseur métrique. Et on peut voir les trous noirs comme des solutions de l'équation non linéarisée, de l'équation complète. Hein, c'est la solution de Kerr, par exemple. Hein, c'est l'équation complète. Et c'est une remarque en disant comme l'équation de Poisson est linéaire, si vous mettez du vide dans l'équation de Poisson, rho égale 0, vous obtenez un champ gravitationnel trivial. Il n'y a pas de champ gravitationnel parce que l'équation est linéaire. Mais dans l'équation d'Einstein, comme elle est non linéaire, eh bien, en fait, même si vous mettez le membre de droite égal à 0, vous avez quand même une solution non triviale, comme la solution de Kerr, qui décrit un trou noir. Et les ondes gravitationnelles, ben c'est des solutions de cette même équation d'Einstein, mais linéarisées cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on suppose que la métrique, c'est la métrique de l'espace plat de Minkowski. On a une petite perturbation qu'on note H, donc dans des coordonnées de type Minkowski. Cette perturbation est très petite. Et à ce moment-là, quand vous injectez ça dans le tenseur de Ricci, vous voyez apparaître naturellement un d'Alembertien de la métrique de Minkowski, c'est-à-dire l'opérateur qui décrit la propagation des ondes dans la métrique de Minkowski, l'opérateur de D'Alembert. Et donc ça, c'est ça à l'ordre linéaire. Vous avez une petite transformation du H ici. Et donc ça explique pourquoi on a cet aspect onde. On a un D'Alembertien, et c'est la D'Alembertien de la métrique de Minkowski. Donc la vitesse de propagation associée à ce D'Alembertien, c'est pas autre chose que la vitesse de la lumière C, 300 000 km par seconde. Donc les ondes gravitationnelles voyagent à la même vitesse que la lumière. Pour les détecter, comme vous le savez, on a construit ces interféromètres géants. Donc là, c'est l'interféromètre franco-italien Virgo, mais il y a aussi LIGO aux États-Unis et Kagra au Japon maintenant. Et dans le futur, il y a le projet de l'Union européenne de l'ESA qui s'appelle LISA dans l'espace. Voilà, ça permet de détecter des ondes gravitationnelles, juste pour montrer pour la fusion de trous noirs binaires ici. Là, vous avez les horizons des événements de 2 trous noirs. C'est l'événement, le premier événement historiquement observé. Et vous voyez, ça génère des ondes dans la structure de l'espace-temps. C'est les ondes qu'on voit ici. Et c'est ces ondes-là qu'on détecte. Là, les deux horizons sont séparés, mais les deux trous noirs vont fusionner en un trou noir plus gros, ce qu'on va voir dans le film ici. Vous voyez, l'amplitude des ondes est beaucoup plus grande. On entre dans le régime non linéaire de la gravitation. Donc ça, c'est des calculs de relativité numérique. Et à la fin, on a un seul trou noir qui se désexcite complètement. Et là, vous avez un espace-temps stationnaire à la fin. C'est l'espace-temps de Kerr. Là, vous avez un trou noir de Kerr. Il n'y a plus d'ondes, il n'y a plus d'espace-temps. Les ondes sont parties à l'infini. Et voilà, c'est des calculs réalisés par un groupe américain qui s'appelle Stimulating Extreme Space-Time. Voilà. Donc, si je reviens à la présentation. Voilà, c'était cet événement détecté. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça « écouter les trous noirs », parce qu'on reçoit dans le détecteur, c'est plutôt comme un signal acoustique, un signal de sonar, par exemple. On a une forme ici qui vibre en fonction du temps, une fonction du temps qui vibre. On n'a pas du tout une image. On peut faire la transformée de Fourier, donc on a la fréquence en fonction du temps, etc. Voilà, bon, c'était cet événement-là qui fait appel effectivement à des trous noirs qui ont des masses très grandes par rapport aux trous noirs qu'on a par l'évolution stellaire, par les phénomènes de supernova, comme le soulignait François tout à l'heure. Dans ce cas-là, on avait 36 masses solaires et 29 masses solaires. Et donc, on a observé beaucoup d'événements. Là, je montre un diagramme où on a quelques événements avec ces masses très grandes pour les trous noirs finaux. Mais aujourd'hui, il y a même cet événement dont parlait Françoise, qui n'est pas sur ce diagramme, qui est peut-être un peu ancien, qui avait un trou noir final de 142 masses solaires. Voilà. Voilà. Bon, ben je crois qu'il est temps de conclure. Dans cet exposé, donc, concentré plutôt sur les aspects de la théorie des trous noirs, donc cette théorie, elle est bien élaborée aujourd'hui, elle est basée sur la relativité générale, mais la définition même du trou noir, elle dit pas que vous avez l'équation d'Einstein, et l'équation d'Einstein n'apparaît pas dans les définitions, donc elle reste valable dans des modifications de la relativité générale. Donc on applique cette théorie, cette définition aujourd'hui à ce qu'on appelle des théories de gravité modifiées, qui vont au-delà de la relativité générale, tout ça pour permettre des tests. Donc aujourd'hui, on sait calculer des trous noirs, on fait ça par exemple dans notre groupe, à l'Observatoire de Meudon, des solutions de trous noirs dans des théories dites de Galiléon, par exemple, il y a des noms comme ça, il y a tout un zoo de théories aujourd'hui de gravitation qui étendent la relativité générale. Donc on fait ces calculs de manière assez agnostique pour permettre des prédictions et voir après, quand on aura des observations fines en ondes gravitationnelles ou pas, si ça permet de... si on retrouve un trou noir de Kerr ou un objet plus exotique que trou noir de Kerr. Si c'est un trou noir de Kerr, ça confortera très bien la relativité générale. Parce que dans ce théorème, la démonstration du théorème d'unicité, que le trou noir est un trou noir de Kerr, on utilise fortement l'équation d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale. Alors, ce que je vous ai dit, voilà, donc on a des prédictions étonnantes sur l'écoulement du temps, là j'ai pas eu le temps de trop monter, mais la déviation des rayons lumineux, c'est vérifié expérimentalement par plein d'expériences de gravitation au voisinage de la Terre n'est pas un trou noir, mais ses effets sur la propagation du temps, la déviation des rayons lumineux, on le vérifie dans le système solaire et au voisinage de la Terre. On a obtenu ces deux premières images que j'ai montrées, celle de M87 de Sagittarius à étoile. Encore une fois, ces images sont très floues, c'est des images reconstruites, ce n'est pas des images directes. On pourrait reconstruire des images où on ne voit même pas la tache sombre, c'est peu probable. Là, je vous ai montré l'image la plus probable. Donc, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment cette tache sombre au cœur. Donc, c'est à prendre encore avec un peu des pincettes, des précautions. Mais c'est les toutes premières. Donc là, les techniques vont s'améliorer. Il va y avoir des nouvelles campagnes d'acquisition de données avec plus d'instruments dans ce réseau de radiotélescopes à la surface de la Terre. On envisage même de mettre des antennes dans l'espace pour avoir une base plus grande dans les interféromètres, voire des antennes sur la Lune. Donc là, le futur est vraiment ouvert là-dessus. On espère avoir des images fines d'ici quelques années. Un domaine aussi en pleine expansion, c'est celui des ondes gravitationnelles. Pour l'instant, on voit les événements, on voit essentiellement la fusion de trous noirs ou d'un trou noir et d'une étoile à neutrons. On ne voit pas très bien le trou noir se désexciter à la fin. Là, c'est très riche d'informations. Quand on aura un peu plus de rapports signal sur bruit, on espère bien voir si le trou noir final émet bien des ondes comme un trou noir de Kerr qui se désexcite, ou si c'est pas un objet plus exotique qui est en train de se désexciter. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on, d'ici quelques années, on pourra vraiment répondre de manière ferme là-dessus. Voilà. Donc, ce que je disais, voilà, c'est la conclusion générale, c'est qu'on a comme ça des tests de l'intérêt de tout ça, c'est de faire des tests de la théorie de la gravitation, de voir si ça confirme toujours la relativité générale. Jusqu'à présent, la relativité générale a passé tous les tests. Hein. Mais là, voilà, avec ces observations fines des trous noirs, peut-être on la mettra en défaut ou peut-être pas. Voilà. Pour finir, je vais laisser ça peut-être, une biographie sur le sujet, à la fois des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Je peux permettre de souligner peut-être un livre récent, là, ça c'est des livres en français plus ou moins, plutôt grand public, mais là il y a un livre, tout en étant grand public, mais dans une collection où il y a quand même un peu des équations, si ça vous intéresse plus les aspects mathématiques, ce que j'ai raconté, les variétés d'espace-temps, le tenseur métrique, il y a ce livre récent de Stéphane Collion, Voyage dans les mathématiques de l'espace-temps chez EDP Sciences, qui est vraiment très bien là-dessus. Sinon, vous avez des livres plus d'astrophysiciens comme Jean-Pierre Lezotta, Jean-Pierre Luminet, Nathalie de Ruel, voilà. Et le livre de Kip Thorne aussi, qui est Trou noir distorsion du temps. Et Kip Thorne, donc prix Nobel de physique, a écrit tout un livre sur la science d'Interstellar. Donc, il a collaboré beaucoup au film Interstellar, comme vous le savez sans doute, au scénario du film, aux équations dans le film, etc. Il a écrit tout un livre livre qui est vraiment intéressant, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais qui s'appelle « La science interstellaire », où il explique pourquoi le trou noir on a choisi telle masse, pourquoi telle planète, à telle distance, etc. C'est vraiment très, très intéressant de lire ce livre. Voilà, c'est le livre qu'on peut recommander. Et un livre très, aussi d'Alain Ruiz-Zullo, voilà. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.